Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 80, Daf P. Bonne écoute et bon limoud.
Tana, nous avons appris dans une braïta. Shteotiot bidio, de l'encre sèche a de l'importance s'il y a de quoi écrire deux lettres. Shteotiot bekulmus, de l'encre dans une plume a de l'importance s'il y en a assez pour écrire deux lettres. Shteotiot bekalmerin, de l'encre dans un encrier a de l'importance s'il y en a assez pour écrire deux lettres. Bayirava, otachat bidio, otachat bekulmus, otachat bekalmerin mahu. Rava s'est posé une question. S'il y a de l'encre sèche en quantité suffisante pour écrire une seule lettre, et avec ça de l'encre dans un plumier en quantité suffisante pour écrire une seule lettre, et encore de l'encre dans un encrier en quantité suffisante pour écrire une seule lettre, est-ce que toutes ces encres peuvent s'accumuler pour qu'ensemble ça ait de l'importance? Et si quelqu'un a sorti ces trois encres ensemble pendant Shabbat, il devrait apporter un sacrifice, ou est-ce que ça ne s'accumule pas? Tekou, on n'a pas de réponse à cette question. Avant de continuer la Gemara, on va rappeler la règle élémentaire du travail de portée pendant Shabbat. Il faut soulever dans un lieu, par exemple dans un lieu privé, ce qui s'appelle Akira, et poser dans l'autre lieu, dans cet exemple dans un lieu public, ce qui s'appelle Hanacha. Si on porte sur soi, le fait de commencer à marcher est considéré comme Akira, soulever l'objet, et le fait de s'arrêter est considéré comme Hanacha, poser l'objet. Continuons la Gemara. Amar Rava, hotzi shtei otiot uktavan keshu me'aler. Rava a dit, si quelqu'un a sorti pendant Shabbat de l'encre en quantité suffisante pour écrire deux lettres, et qu'il a écrit ces deux lettres en marchant sans s'arrêter, chayav, il a tout de même l'obligation d'apporter un sacrifice, quoiqu'il ne s'est pas arrêté et qu'il n'a pas posé l'encre en marchant. Ktivatan zuya anachatan, puisque le fait d'écrire est l'action de poser, et c'est considéré comme s'il avait posé l'encre dans le lieu public. Ve'amar Rava, Rava a encore dit, hotzi otachat vekatva, s'il a sorti de l'encre en quantité suffisante pour écrire une seule lettre et qu'il l'a écrite, ve'chazar votzi otachat vekatva, et dans le même oubli, il a à nouveau sorti de l'encre en quantité suffisante pour écrire une seule lettre et il l'a écrite. Patour, il est exempté d'apporter un sacrifice. Maïtahama, quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'ici on ne dit pas que ces deux fois où il a sorti de l'encre s'accumulent puisque c'est dans le même oubli et qu'il a l'obligation d'apporter un sacrifice? Alors ici c'est différent. Beidna de Avka le Batraïta, Chasarle le Shiura de Kamaïta. Puisque au moment où il a sorti la deuxième encre, il manque de la quantité nécessaire de la première encre, puisque la première lettre a diminué en séchant, il y a moins que la quantité nécessaire pour écrire deux lettres, et c'est pourquoi, en tout, il n'y en a pas assez pour devoir apporter un sacrifice. Ve'amar Rava, Rava a encore dit, Hotzi chatzi grogaret achat ve'inicha. S'il a sorti d'abord la taille d'une demi-figue sèche et il l'a posée, ve'chazar ve'hotzi chatzi grogaret achat ve'inicha. Et dans le même oubli, il a sorti une autre demi-figue sèche et il l'a posée. Rishona naase kemishe kalta kelev voshen isrefa ou patour. La première demi-figue est considérée comme si elle avait été interceptée par un chien ou qu'elle avait été brûlée et il est exempté. C'est-à-dire que ces deux demi-figues ne s'accumulent pas pour avoir l'obligation d'apporter un sacrifice de khatat, quoique c'était dans le même oubli. La Gemara demande ve'amai hamancha. Mais comment se fait-il que ces deux demi-figues ne peuvent pas s'accumuler? Pourtant, la première demi-figue est encore posée et les deux devraient pouvoir s'accumuler du moment que c'était dans le même oubli. L'Agmar répond, Harika Amar, voici ce que Rava veut dire. Vim kadam vi'igbia rishona kodem anachat shnia. Et si d'abord, il a à nouveau soulevé la première demi-figue sèche avant d'avoir posé la deuxième demi-figue sèche, Nasid Rishona Kemish Nikleta Oshenisrefa ou Patour. La première demi-figue sèche qui est maintenant en train de bouger avec lui, qui n'est pas posée est considérée comme si elle avait été interceptée par un chien ou qu'elle avait été brûlée puisqu'elle n'est pas posée maintenant, et il est donc exempté. Vamar Rava, Rava a encore dit, Hotsi Chatsi Grogaret Veinicha, si quelqu'un a sorti pendant Shabbat une demi-fixèche et qu'il l'a posée, Vechazar Veotsi Chatsi Grogaret Vevira Derech Alea Chayav, et dans le même oubli, il a à nouveau sorti une autre demi-figue sèche, il l'a fait passer par-dessus de la première demi-figue sèche, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. La Gemara demande là-dessus, Vahamai Halonar, comment se fait-il qu'il a l'obligation d'apporter un sacrifice? La deuxième demi-figue sèche n'est pourtant pas posée. La Gemara répond, Kegon Shevira Torchlosha. Il s'agit du cas où il a fait passer la deuxième demi-figue sèche dans les trois tfachim de la première demi-figue sèche, et tout ce qui est à l'intérieur de trois tfachim au-dessus du sol est considéré comme posé. La Gemara demande, Ve'amar Rava Torchlosha le Rabbanan, Tsarich Anacha al Gabe Mashu. Rava a pourtant dit plus loin que tout ce qui est dans l'espace de trois tfachim au-dessus du sol, selon les Chachamim qui pensent qu'un objet qui survole n'est pas considéré comme posé, il faut que l'objet se soit posé au moins sur une toute petite surface, quoiqu'on n'a pas besoin d'une surface de 4 sur 4, puisque c'est aussi près du sol, on a tout de même besoin que l'objet se soit posé. On voit donc dans ce deuxième enseignement de Rava que ce qui passe au-dessus du sol, même dans les trois tfachim, si ça s'est pas du tout posé, c'est pas considéré comme posé. La Gemara répond, l'okashia, ce n'est pas une contradiction. Kan bezorek, l'enseignement de Rava qui est dit plus loin à propos d'un objet qui a été lancé, c'est puisqu'il a été lancé qu'il a besoin de se poser sur quelque chose pour être considéré comme posé. Kan bemaavir, alors qu'ici où il tient la deuxième demi-figue sèche en main, puisque la deuxième demi-figue sèche est posée dans sa main, du moment que c'est dans la distance de trois tfachim au-dessus du sol, c'est considéré comme posé, quoique ça ne s'est pas posé sur une surface inerte au sol. Tanou Rabbanan, nous avons appris dans une braïta. Hotsi chatsi grogeret, vechazar vehotsi chatsi grogeret. Si quelqu'un a sorti d'abord une première demi-figue sèche, et ensuite il a à nouveau sorti une deuxième demi-figue sèche. Belem echad chayav, si c'était dans le même oubli, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Bishte alamot patour, si c'est dans deux oublis différents, il est exempté. Rabbi Yossi Omer, belem echad lirshut echad chayav. Rabbi Yossi dit, si c'est dans le même oubli et que c'est vers le même lieu public qu'il a sorti les deux demi-figues sèches, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Lishte reshuyot patour, s'il a sorti vers deux lieux publics différents qui sont séparés l'un de l'autre par un autre lieu, il est exempté. De quel autre lieu s'agit-il entre les deux? On va voir qu'il y a une discussion d'Amoraïm à ce propos. Amar Rabba, Rabba a dit, Vehu sheyesh chiyuv chatat beneihem, et c'est seulement dans le cas où il y a un autre lieu qui entraînerait l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat si on avait déplacé entre ces deux lieux publics et ce lieu du milieu, c'est donc un lieu privé. C'est donc seulement dans ce cas-là que les deux lieux sont considérés comme deux lieux différents d'après Rabbi Yossi. Aval Carmelit lo, mais s'il y avait un autre lieu entre les deux qui est considéré comme Carmelit, vers lequel il n'y a pas d'obligation d'apporter un sacrifice de chatat si on avait déplacé un objet, ce n'est qu'une interdiction de Rabbanan, ça n'a pas assez d'importance pour séparer entre les deux lieux publics, et même d'après Rabbi Yossi, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Abaye Amar Afilou Carmelit. Abaye a dit, même si le lieu qui sépare est un carmélite, selon Rabbi Yossi, ça suffit pour séparer entre les deux lieux publics. Aval Pisla Lo, mais un gros morceau de bois en travers de la rue ne suffit pas pour séparer entre les deux lieux publics, et même d'après Rabbi Yossi, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Verava Amar Afilou Pisla. Et Rava a dit, même s'il y a un bout de bois en travers de la rue, ça suffit pour séparer d'après Rabbi Yossi, Vazda Rava l'itahame. Et Rava suit son propre avis, Damar Rava, Reshut Shabbat Kirshut Gitin Damia, car Rava a dit, le lieu pour Shabbat est comparable au lieu différent pour l'acte de divorce. Si quelqu'un a prêté un endroit dans sa cour à sa femme et qu'il y a jeté un acte de divorce, s'il est tombé sur un gros bout de bois, le divorce n'est pas valable, car un gros bout de bois est considéré comme un endroit à part, et ce n'est pas le lieu qu'il avait prêté à sa femme. Pour Shabbat aussi, un gros bout de bois est considéré comme un lieu à part. Nous avons vu dans la Mishnah, krol kedelikrol aynachat. Du fard a de l'importance s'il y en a assez pour farder un œil. La Gemara demande aynachat halokachle. Les femmes n'ont pourtant pas l'habitude de ne se farder qu'un seul œil. Amar Ravuna, sheken tsnuot kochlot aynachat. Ravuna a dit, parfois ça peut avoir de l'importance, car les femmes très pudiques qui ont la tête enveloppée et qui ne découvrent qu'un seul œil pour voir, n'ont l'habitude de ne farder qu'un seul œil, celui qui est apparent. C'est pourquoi, dans ce cas-là, de quoi farder un seul œil a de l'importance. Metve, on pose une question en citant une braïta dans laquelle il est dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, krol. Rabbi Shimon ben Elazar dit, si quelqu'un a sorti du phare pendant Shabbat, im lirefoa kedelikrol aynachat. Si c'est pour un remède, il suffit qu'il y en ait assez pour farder un seul œil. Im le kachet bebet enaim, alors que si c'est pour se maquiller, il faut qu'il y en ait assez pour farder deux yeux. Tirgma Hillel bered Rav Shmuel bar Nachmeni, kitania ahu beiraniyot. Hillel, le fils de Rav Shmuel bar Nachmeni, a interprété cette braïta en disant que cette braïta-là parle de villageoises qui sont dans un endroit où il n'y a pas tellement de public et qui ne se voilent pas le visage. Pour elles, le fard n'a d'importance que si on peut farder les deux yeux. Nous avons vu dans la Mishnah, Devek Kedeliton Berosh Ashafshaf. De la colle forte en quantité suffisante pour enduire une petite planche. Tana, nous avons appris dans une braïta, Kedeliten Berosh Shafshaf chez Berosh Kanesh El Tsayadin. De quoi enduire une petite planche qui est à l'extrémité d'une perche de chasseurs d'oiseaux, les oiseaux se collent dessus. Nous avons vu dans la Mishnah, Zefet Vegofrit Kedel Asot Roulé, du goudron et du soufre en quantité suffisante pour faire un trou. Tana Kedel Asot Nekef Katan, nous avons appris dans une braïta de quoi faire un petit trou. Comme on a expliqué dans la Mishnah, on bouche un récipient de mercure avec du goudron ou du soufre pour après le percer et fabriquer une sorte de compte-goutte pour que le mercure coule lentement. Nous avons vu dans la Mishnah, Kharsit Kedel Asot Pikur. De la poudre de brique, en quantité suffisante pour boucher le trou du creuset des orfèvres par lequel on insère le soufflet, Rabbi Yehuda dit de quoi fabriquer un support pour un creuset. La Gemara demande les mêmes rats des Shiurah de Rabbi Yehuda Nafish. Allons-nous dire que Rabbi Yehuda pense qu'il faut en général une plus grande quantité pour devoir apporter un sacrifice, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda est plus indulgent que Chachamim en général, Hakaim Alan des Shiurah de Rabbanan Nafish. Nous savons pourtant par ailleurs que la quantité nécessaire pour devoir apporter un sacrifice d'après Chachamim est plus importante que celle de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que Chachamim sont plus indulgents que Rabbi Yehuda qui est plus sévère. Comment se fait-il qu'ici, la quantité nécessaire pour devoir apporter un sacrifice en poudre de briques est plus importante d'après Rabbi Yehuda que d'après Chachamim? Comment savons-nous qu'en général, Rabbi Yehuda est plus sévère que Chachamim? Dites-nous, car nous avons appris dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Kedelitol emenu bidat minal le katan. Rabbi Yehuda dit que le jonc a assez d'importance s'il y en a assez pour prendre la mesure d'une chaussure d'un enfant. Alors que Chachamim disent qu'il faut qu'il y en ait assez pour faire une boucle pour accrocher un tamis ou un crible. On voit donc là-bas que Rabbi Yehuda nécessite une plus petite quantité que Chachamim, c'est lui qui est plus sévère. Comment se fait-il qu'ici c'est le contraire? La Gemara répond, Eima kede la soud pitput kiraktana. Il faut dire ici que selon Rabbi Yehuda, la poudre de brique a assez d'importance s'il y en a de quoi enduire les fissures du support d'un petit fourneau qui est une quantité inférieure à celle qui est nécessaire d'après Chachamim, qui est de quoi boucher le trou d'un creuset.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Pei Amud Bet. Tanu Rabbanan nous avons appris dans une braïta. Hamotzi Sehar Kedel Legabel Bo Et Atit. Celui qui sort des cheveux pendant Shabbat, s'il y en a assez pour mélanger à l'argile, ils avaient l'habitude de mélanger des cheveux à l'argile pour la renforcer, s'il y en a assez pour cela, il a l'obligation d'apporter un sacrifice. Tit La Sot Pikur Shel Tsorfe Zahav. L'argile a de l'importance s'il y en a assez pour boucher le trou d'un creuset des orfèvres par lequel on insère un soufflet. Nous avons vu dans la Mishnah, Sid Kedelasoud, de la chaux en quantité suffisante pour enduire une petite fille. Tana nous avons appris dans une braïta, כדי לעשות אצבע קטנה שבבנות, il suffit qu'il y en ait assez pour enduire un petit doigt d'une petite fille. Ils enduisaient tout le corps de chaud pour donner un beau teint à la peau. S'il y en a assez pour enduire un petit doigt, ça a déjà de l'importance. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Note Israël, Shigiu le Pirkan ve le Igiu le Shanim. Les filles d'Israël qui ont des signes de puberté sans être arrivées à l'âge de la puberté et qui sont gênées par les poils. Bnot Anim, Toflot Otan Besid. Les filles des pauvres les enduisaient de chaud. Bnot Ashirim, Toflot Otan Besolet. Les filles des riches les enduisent de farine de gruau. Bnot Melachim, Toflot Otan Beshemen Hamor. Les princesses les enduisent d'une certaine huile nommée Shemen Hamor. Chez Nehemar, car il est dit dans la Megillah, Shisha Chodashim Beshemen Hamor. Les filles qui étaient destinées au roi Achashverosh étaient traitées pendant 6 mois dans cette fameuse huile Shemen Hamor. La Gemara demande Maï Shemen Hamor. Quelle huile est-ce ce Shemen Hamor? Ravuna Bachia Amar Satrat. Ravuna Bachia a dit qu'il s'agit d'huile parfumée. Ravirmia Baraba Amar Shemen Zaït Shelo Evi Ashlish. Ravirmia Baraba a dit qu'il s'agit d'huiles d'olive qui n'ont pas poussé un tiers. Tania nous avons appris dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer An Piknon Shemen Zaït Shelo Evi Ashlish. Rabbi Yehuda dit l'huile dit Anpiknon, dans la Maseret Menachot, il est dit que l'huile nommée Anpiknon est inapte pour les offrandes. Alors, ce Anpiknon est de l'huile d'olive qui n'ont pas poussé un tiers et qui est très amère. C'est pourquoi il n'est pas apte pour les offrandes. Velama Sachinoto, pour quelle raison est-ce que les princesses les enduisaient de Shemen Hamor? Shemeshir et Asear ou Meaden et Abassar, cette huile épile les cheveux ou les poils, et adoucit la chair. Rav Bibi Haviele Brata, Tafla Ever Ever, Rav Bibi avait une fille, il l'a enduite de chaud, un membre après l'autre. Chakalba Arba Meot Zouze, elle est devenue si belle que Rav Bibi a obtenu du mari qui l'a épousée 400 zouz. Haveahu Nochi Bishvivute, il y avait un non-juif dans le voisinage de Rav Bibi, Haviele Brata, Tafla Bechadzimna Umeita, il avait aussi une fille. Il a voulu suivre l'exemple de Rav Bibi et il l'a enduit d'un seul coup de chaud, elle en est morte. Amar Katal Rav Bibi Librati, le non-juif a dit, Rav Bibi a tué ma fille. Amar Rav Nachman, Rav Bibi Deshati Shikha Bayan Bnatei Tafla. Rav Nachman a dit, puisque Rav Bibi boit de la bière qui noircit le teint et fait pousser les poils, ses filles ont besoin d'être enduites, Anan Delo Shatinan Shikha Lo Bayan Bnatan Tafla. Nous, puisque nous ne buvons pas de bière, nos filles n'ont pas besoin d'être enduites. Nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, qu'est la soude qu'il coule. Rabbi Yehuda a dit que la chaux a de l'importance s'il y en a assez pour enduire qu'il coule. Nous avons traduit dans la Mishnah la tempe. Rabbi Nechemia a dit qu'il faut qu'il y en ait assez pour enduire undipi. Nous avons traduit dans la Mishnah le front. La Gemara demande, mai qu'il coule ou mai undipi? Que signifie ce mot qu'il coule, qui est la quantité nécessaire d'après Rabbi Yehuda, et que signifie le mot andipi, qui est la quantité nécessaire d'après Rabbi Nechemia? Amar Rav, tzida ou bat tzida. Rav a dit, le mot qu'il coule, qui est la quantité nécessaire d'après Rabbi Yehuda, signifie la tempe, et le mot andipi, qui est la quantité nécessaire selon Rabbi Nechemia, est la partie inférieure de la tempe, qui est encore plus petite que la tempe. La Gemara demande les mêmes rats des Shiurats de Rabbi Yehuda n'affiche. Allons-nous dire qu'en général, la quantité nécessaire d'après Rabbi Yehuda est plus grande, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda est en général plus indulgent, comme ici où il réclame une plus grande quantité que celle nécessaire d'après Rabbi Nechemia. Hakaimalan des Shiurats de Rabbanan n'affiche. Nous savons pourtant qu'en général, la quantité nécessaire d'après Chachamim est plus grande que la quantité nécessaire d'après Rabbi Yehuda. Comme nous avons vu à propos du jonc que d'après Chachamim, il faut qu'il y en ait assez pour faire une boucle à un tamis ou à un crible, et d'après Rabbi Yehuda, il suffit qu'il y en ait assez pour prendre la mesure d'une chaussure d'enfant, qui est une quantité bien plus petite. Comment se fait-il qu'ici, Rabbi Yehuda est plus indulgent et qu'il faut une plus grande quantité d'après Rabbi Yehuda? La Gemara répond, Zuta miderabanan venafish miderabinechemia. La quantité nécessaire pour Rabbi Yehuda est plus petite que celle de Chachamim, puisque d'après eux, il faut qu'il y en ait assez pour enduire le petit doigt d'une petite fille. C'est une quantité plus grande que celle de Rabbi Yehuda qui n'est que la tempe, mais la quantité de Rabbi Yehuda est tout de même plus grande que la quantité nécessaire d'après Rabbi Nechemia. Mitvé, on pose une question sur cette interprétation des propos de Rabbi Nechemia en citant une Tosefta dans laquelle il est dit « Amar Rabbi, nirin divri Rabbi Yehuda bechavut, vidivri Rabbi Nechemia bebetat asid. » Rabbi a dit « Les propos de Rabbi Yehuda sont valables pour la chaux très diluée qui est adéquate pour enduire la tempe, et les propos de Rabbi Nechemia sont valables pour des mottes de chaux qui sont faits en pâte épaisse et qui sont adéquats pour l'utilisation que Rabbi Nechemia a citée. » Vis al kadatar tzida ou bat tzida, idivi idi chavut. Et si tu penses que le kilkul de Rabbi Yehuda signifie la tempe et le undepi de Rabbi Nechemia signifie la partie inférieure de la tempe, pour ces deux choses-là, on emploie la même chaux qui est de la chaux très diluée. Comment se fait-il que Rabbi a fait une distinction entre les types de chaux? Et là, Amar Rabbi Yitzhak, Amre debe Rabbi Ami, Andipa. C'est pourquoi Rabbi Yitzhak a dit, il a été dit dans la yeshiva de chez Rabbi Ami, qu'il s'agit ici de la chaux qu'on met sur un récipient à deux robinets, l'un en bas et l'autre en haut. Lorsqu'on veut boucher celui d'en bas, on se sert de chaux épaisse. C'est de cela que parle Rabbi Nechemia. Matkifla Rav Kahana. Rav Kahana a posé là-dessus une forte question. Viri Adam Ose Maota Van Parot. Est-ce qu'un homme a l'habitude de gaspiller son argent, car le vin qui est dans ce récipient fait fondre la chaux et il sera gaspillé? C'est sûr qu'on ne peut pas se servir de chaux à cet usage. Et là, Amar Rav Kahana Shnatot. C'est pourquoi Rav Kahana a dit que le mot Andipi signifie de quoi peindre les marques en relief d'une mesure. Keditnan, ce mot shnatot qui signifie les marques d'une mesure, on l'a trouvé dans une Mishnah de Menachot dans laquelle il est dit shnatot hayu bein, il y avait des marques dans la mesure d'un hin du temple. Atkan lepar, une marque était jusque-là pour le taureau, c'est la quantité d'un demi-hin de vin qui accompagne un taureau. Atkan lehail, jusque-là, pour un bélier, c'est la quantité d'un tiers de hin. Atkan le kaves, jusque-là, pour un agneau, c'est la quantité d'un quart de hin qui accompagne un agneau. Vibaitema, et si tu veux, je peux te donner une autre interprétation à ce mot andipa cité par Rabbi Nechemia. Mai andipa aputa. Que veut dire andipa? C'est le front qu'on avait l'habitude d'enduire pour obtenir un beau teint. C'est donc une surface plus grande que celle de Rabbi Yehuda. Vechiha de'ahu bar galil de'ikla le bavel. On voit ce mot andipa qui signifie le front dans l'histoire d'un certain Galiléen qui était de passage en Babylone. Damroule kum drosh lanu bemase merkava. Auquel ils ont dit, lève-toi et enseigne-nous à propos du char divin cité dans la vision de Yehezkel. Amar lehu edrosh lechu. Il leur a dit, je vais vous enseigner comme Rabbi Nechemia a enseigné aux camarades. Vinavka arita min kotel ou marte beandipi ou mit. Et il est sorti un certain insecte, on a l'habitude de traduire un bourdon du mur, et il l'a frappé au front, et il en est mort. On voit ici que le mot andipi signifie le front. Vamroule min dilei dale. Et ils ont dit, c'est lui-même qui a provoqué cela en voulant enseignant des choses qu'on n'a pas le droit d'enseigner à tout le monde. La Mishnah suivante. Adama kechotem amartsofin divrei Rabbi Akiva. De la terre, une sorte d'argile rouge, en quantité suffisante pour cacheter des grands sacs de marchandises pour le transport maritime, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Bachachamim omrim kechotem aigrot, et chachamim disent la taille d'un cachet de lettres qui est bien plus petit. Zevel vecholadak kedel ezabel kelar shel kruv divrei Rabbi Akiva. De l'engrais et du sable fin, de quoi fertiliser la tige d'un chou, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Bachachamim omrim kedel ezabel kreisha, et chachamim disent de quoi fertiliser un poireau. Chol agas kedel iten almelo kafsid. Du sable épais, s'il y en a assez pour mettre sur une truelle pleine de chaux. Kane kedel asot kulmus, un roseau, s'il est assez grand pour fabriquer une plume. Vimaya ave omerousas. Et s'il est épais ou craquelé et qu'on ne peut pas s'en servir pour faire une plume, kedel vachel bo betza kalash bebetzim trufa unetuna beilfas. De quoi cuire un œuf le plus léger, on verra dans la Gemara de quel œuf il s'agit, brouillé et mis dans une poêle. Almelo Kafsid, nous avons vu que le sable épais a de l'importance s'il y en a assez pour mettre sur le plein d'une pelle de chaux. Tana Kedeliten Alpi Kafshel Sayadin, nous avons appris dans une braïta, il faut qu'il y en ait assez pour mettre sur la bouche d'une truelle de peintre. Mantana de Chol Malele Lesid, quel est le Tana qui pense que le sable arrange la chaux? Amar Rafrizda Rabbi Udaï, Rafrizda a dit c'est l'avis de Rabbi Uda. Détania, car nous avons appris dans une braïta, Lo yasud adam et beito besid, ela imken irevbo teven ochol. Un homme n'a pas le droit de peindre sa maison après la destruction du temple, sauf s'il a mélangé dans la chaux de la paille ou du sable. On voit donc que le sable abîme la chaux. Rabbi Uda omer, teven mutar chol asur, mipneshi utraxid. Rabbi Uda dit que si c'est de la chaux mélangée avec de la paille, c'est permis, mais si c'est de la chaux mélangée avec du sable, c'est interdit, car c'est une sorte de chaux très solide et c'est interdit. On voit donc que c'est Rabbi Uda qui pense que le sable arrange la chaux. Rava Amar, afilu tema rabanan, kilkulos de utikuno. Rava a dit, même d'après l'avis de Chachamim, ici ça a de l'importance, puisque ce qui abîme la chaux d'une part, l'arrange d'autre part, puisque maintenant, ça autorise à peindre sa maison. Voilà pour le Daf Pei. Shabbat Daf Pei Aleph. On reprend Daf Pei Amud Bet, au bout de la 9e ligne avant la fin de la page, les deux points. Nous avons vu dans la Mishnah, Kanek de la Asot Kulmus. Un bout de roseau a de l'importance s'il y en a assez pour fabriquer une plume. Tana nous avons appris dans une braïta, Kulmus anagiel et kishrez baotav. Il s'agit de fabriquer une plume qui arriverait jusqu'à l'articulation de ses doigts lorsqu'on la tient en main pour écrire. Baï Ravashi, kesher a elyon ou kesher a tarton. Là-dessus, Ravashi s'est demandé, est-ce qu'il s'agit de l'articulation supérieure au milieu de la main ou alors s'agit-il de l'articulation inférieure au milieu du doigt? Teku, on n'a pas de réponse à cette question. Nous avons vu dans la Mishnah, Vi Maya Aver Roulé. Et si le roseau est trop épais ou qu'il est craquelé, qu'on ne peut pas s'en servir pour fabriquer une plume, il faut qu'il y en ait assez pour qu'on fasse du feu, de quoi frire un œuf léger. Tana nous avons appris dans une braïta, Trufa Bechemen ou Netuna Beilfas. Il s'agit d'un œuf brouillé avec de l'huile posé dans une poêle à frire. C'est donc une cuisson très rapide. Amarle Marbered Ravina libré. Marbered Ravina a demandé à son fils, Mishmialar Betsakala Maihi, est-ce que tu as entendu de quel œuf s'agit-il lorsque le Tana de notre Mishnah nous dit un œuf léger? De quel œuf s'agit-il? Amarle Beata de Tsiltsela. Le fils lui a répondu qu'il s'agit d'un œuf d'un certain petit oiseau qui est nommé Tsiltsela. Là-dessus, Marbered Ravina lui a demandé « Maïta ama mishum de zutra, ema de tziparta ». Pour quelle raison est-ce que tu dis que c'est l'œuf de cet oiseau précis, puisque c'est très petit, mais tu pourrais plutôt dire l'œuf d'un certain autre oiseau qui est nommé tziparta, qui est aussi un petit oiseau et dont l'œuf est encore plus petit. Si tu traduis que le mot « œuf léger » veut dire un petit œuf, tu devrais dire que c'est l'œuf le plus petit qui existe, celui de Tsiparta. Ishtik, le fils s'est tu, il n'avait rien à répondre. Amarle Mideshmi Alarbeha, le fils a demandé à son père, est-ce que toi tu as entendu quelque chose à ce propos? Amarle Hachi Amar Rav Shechet, Betsat Tarnegolet. Marbered Ravina lui a répondu, voici ce que Rav Shechet a dit, il s'agit d'un œuf de poule. Umay Karula Betsa Kala, et pour quelle raison est-ce que l'œuf de poule est nommé un œuf léger? Shiaru chachamim en lecha beitza kala levachel yoter mi beitza tarnegolet. Les sages ont mesuré et ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas d'œuf qui cuit plus vite, qui est plus facile à cuire que celui des poules. Il lui a demandé umaishna kol shiure shabbat ki grogeret veacha ke beitza. Comment se fait-il que tous les aliments pour les humains sont en général en quantité d'une figue sèche à propos des interdictions de Shabbat. Et ici, on voit que l'œuf lui-même est en quantité d'un œuf et pas la quantité d'une figue sèche. Amarle Hari Amar Rav Nachman, ki grogeret mi beitza kala. Marbered Ravina lui a répondu, voici ce que Rav Nachman a dit, il s'agit ici d'un œuf de poule, mais en quantité d'une figue sèche et pas en quantité d'un œuf.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.